Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, aujourd'hui des chroniques et aussi un blind test qui sera consacré à Jean-Louis Trintignant, évidemment puisque l'immense acteur nous a quittés très récemment. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi, tu vas nous parler d'un film, d'un réalisateur qui n'en a réalisé qu'un seul.
Oui, un film rare qui s'appelle donc Dementia, qui dure 55 minutes et édité par les éditeurs très prestigieux de Potemkin.
Quant à Guillaume, il parlera du film Elvis, biopic plutôt attendu. Moi, je suis allé piocher un film sur la plateforme Netflix, et pas n'importe lequel, hein, c'est celui bien de Joseph Kosinski, à qui l'on doit Top Gun Maverick, sauf que là, il a fait Spider-Head. Mais on commence cette émission avec El Buen Patron, alors que Juan Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de Balance, doit recevoir un prix censé honorer son entreprise, eh bien, celle-ci se dérègle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
C'est le film qui a raflé tous les Goya, l'équivalent espagnol des Césars. Cette année, il en a reçu 6 tout de même, dont meilleur film, meilleur acteur. Et le plus étonnant est surtout qu'il a obtenu sa victoire au nez et à la barbe de Pedro Almodovar, grand favori avec Madres Paralelas. Le film El Buen Patron s'ouvre sur une scène qui pourrait se passer en France, mais nous sommes en Espagne. Plusieurs jeunes d'origine maghrébine se font passer à tabac par d'autres adolescents pour des prétextes racistes. Cette scène, pourtant déconnectée à première vue du reste du film, prendra tout son sens à sa fin, suggérant que le capitalisme repose entre autres toujours sur ce même rouage, la haine de l'autre, de l'étranger, et que pour régner, que ce soit en termes de politique ou d'économie, on n'a rien trouvé de mieux que de diviser.
Qui est ça ?
C'est moi.
Tofelgo !
Nous rencontrons ensuite Julio Blanco, campé de tout son charisme par Javier Bardem. Julio Blanco, en plein discours devant les salariés de son usine qui produit des balances, il a hérité de son père cette entreprise et prétend la gérer avec un sens de la justice aiguë et ainsi maintenir un équilibre parfait au sein de cette structure à l'image de la balance qui trône à l'entrée du parking. Balance qui ne va pas tarder, comme vous vous en doutez, à se déséquilibrer. C'est pourtant une semaine importante pour Julio Blanco, qui est en lice pour le prix d'excellence décerné par la région. Seulement, voilà, les problèmes surgissent. Il vient de licencier un employé qui décide de ne pas se laisser faire et de camper devant l'usine pour récupérer son emploi. Il séduit une jeune stagiaire, comme à son habitude, pour la mettre dans son lit, mais elle s'accroche un peu plus que les autres et cerise sur le gâteau. Son contremaître, convaincu d'être trompé par sa femme, perd les pédales. Toute la structure de domination de Blanco basée sur le maintien des apparences, le paternalisme, le chantage affectif est en train de se fissurer. Et il ne lui reste que quelques jours pour tenter de reprendre le contrôle. Si le cinéaste madrilène Fernando León de Aranoa, qui réalise ici son troisième film, n'est pas très connu chez nous, il va pourtant falloir définitivement compter avec lui dans les prochaines années, au même titre que l'excellent réalisateur Rodrigo Sorogoyen par exemple. Fernando León de Aranoa avait déjà réalisé Princesas, film plus radical dans son approche sociale, qui suivait des prostituées madrilènes, et Les Lundis au Soleil, dont les personnages principaux étaient des chômeurs, une sorte de complément à El Bueno Patron, dont le anti-héros est donc un patron. Et c'est sans doute là que le bât blesse, malgré les immenses et indéniables qualités de mise en scène et d'écriture. la mise en scène reste assez complaisante envers le personnage de Julio Blanco, comme si le réalisateur, et on peut le comprendre, hein, était subjugué, dépassé par la présence et le charisme de Javier Bardem. Javier Bardem qui, encore une fois, démontre son talent, vieilli, affublé d'un style vestimentaire de patron de province et d'un langage corporel où rien n'est laissé au hasard. Fernando León de Aranoia maîtrise à la perfection l'humour très noir, ici la satire sociale. Il écrivait d'ailleurs auparavant pour la télévision et pour des humoristes avant de réaliser ses propres films, mais il semble avoir du mal, même s'il remet en question un système, et ce avec une grande intelligence, il semble avoir du mal à se moquer réellement de son personnage de patron, se contentant de rester dans une sorte de fascination devant l'acteur qui le joue. Et c'est notamment dans le traitement scénaristique de sa relation avec sa stagiaire que ce déséquilibre se joue et se révèle. La jeune femme interprétée par Almudena Amor, que l'on a récemment vue dans le film d'horreur de Paco Plaza Abuela, s'avère être plus manipulatrice que manipulée et vouloir une vraie relation amoureuse avec le patron sexagénaire et être prête à toutes les fourberies pour cela. Le scénario aurait pu en faire un personnage féminin qui a soif de justice, d'égalité, qui se venge de son patron pour cette raison, mais non. Le personnage est une perverse érotomane obsédée par Blanco depuis son plus jeune âge, qui rappelle les pires thrillers érotiques américains des années 90. Le problème étant que son personnage est traité sans le moindre trait d'humour, mais filmé de façon à mettre en valeur son physique. Et face à l'entité maléfique qu'elle incarne, eh bien Blanco serait presque dépeint comme une victime. Dommage que ce point du film soit le seul à être assez maladroit, alors que tout le reste est tout à fait virtuose.
El Buen Patron est en salle depuis le 22 juin. Un film explore les relations entre Elvis et son manager, le fameux colonel Tom Parker. Ce film, eh bien, il s'intitule Elvis.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'est un jeune chanteur de Memphis, dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride. Monsieur Elvis Presley.
S'il est à intérêt variable, l'exercice du biopic ou film biographique en bon français est parfois un marqueur pertinent pour qui s'intéresse à la longévité des icônes. Loin d'être saugrenu, ce questionnement permet de mettre en lumière le choix des producteurs et des studios à jouer des millions d'euros ou de dollars dans un film qui va revenir en arrière pour nous conter les grandeurs, ou les plus sombres, d'une star qui fut à un moment précis tout en haut de l'affiche. C'est intéressant parce que le temps a fait son office, et tandis que certaines vedettes extrêmement populaires en leur temps finissent par disparaître même de l'inconscient collectif, et d'autres comme Elvis continue de traverser les générations et d'inspirer des metteurs en scène qui trouvent de quoi parler au présent de leur pays et de leur culture. En ces temps de dénonciation d'appropriation culturelle, d'autotune et de décomposition au sein des bons tant pis, une icône comme Elvis semblait incarner au mieux un passé niaiseux et révolu, au pire un margoulin qui faisait sacrilège du rock'n'roll avec des paroles. Surprise, le réalisateur Baz Luhrmann, qui s'était déjà intéressé à la musique avec Ballroom Dancing, Moulin Rouge ou dans une autre mesure Roméo plus Juliette si on prend en compte le montage très musical et clipesque qu'il a fait avec sa bande originale, ben il lui consacre un film d'ampleur qui aura même eu les honneurs d'un passage en hors compétition à Cannes en mai. Alors, même si le biopic musical est revenu à la mode après le pourtant catastrophique Bohemian Rhapsody, la figure d'Elvis était-elle si évidente en 2022? Ben évidente, ben oui, car déjà Elvis et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. On ne compte plus les films qu'il a fait, et même parfois sous la houlette de réalisateurs prestigieux comme Michael Curtis avec Bagarre au King Creole, venu ici s'assurer un honnête succès acquis d'avance. Elvis, c'est aussi, comme Bruce Lee pour l'Asie, une figure de l'Amérique que certains ont repris, disséqué, voire caché dans la peinture fascinante de leur pays, comme Robert Zemeckis qui le glissera dans Forrest Gump, dans sa méconnue série itinérante Johnny Bago, ou encore le temps d'un gag hilarant dans sa production Fantôme contre Fantôme, réalisée par Peter Jackson. C'est aussi le remarquable téléfilm Le roman d'Elvis de John Carpenter, sensible portrait du King impeccablement interprété par Kurt Russell et carton énorme lors de sa diffusion en 79. Bref, la liste est longue, mais la sensibilité tout juste évoquée allait-elle être de mise dans la version 2022, connaissant le style hystérique de Luhrmann et sa propension à découper ses scènes dans tous les sens.
Je souhaiterais être votre manager, Monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler ?
Je suis prêt.
Alors que les aficionados et les détracteurs se rassurent ou soupirent, le temps n'a pas eu raison du maniérisme du réalisateur australien. Et si vous êtes de ceux qui avaient apprécié sa première partie de carrière, mais avaient franchement tiré la langue devant le pompeux Gatsby magnifique ou l'encore plus embarrassant Australia, ben le voilà revenu hein, avec une maîtrise franchement insolente. Elvis est un film long et fatigant car extrêmement stimulant, mais profondément réussi dans tous les effets de style baroque qu'il entreprend. Comme énoncé, Lerman arrive après la bataille, mais arrive néanmoins à parcourir toute la vie déjà très documentée du King sans que cela ne soit ennuyeux et en arrivant à restituer la subversion qu'était le rock'n'roll dans les années 50. Jamais le chanteur n'a paru aussi rebelle, sexuel, enflammé et son impact sur son public féminin aussi habilement restitué. Outre son metteur en scène, le film doit beaucoup à l'interprétation possédée d'Austin Butler dans le rôle principal, véritable bête de scène qui déclenche des orgasmes à l'appel avec ses moulinets de hanches et fait hurler les conservateurs par sa liberté totale. Lerman arrive également à contourner le faux débat éternel de l'appropriation culturelle, car il n'y a qu'un Elvis comme il n'y a qu'un Little Richard, justement montré dans le film, en payant le tribut de la naissance du rock'n'roll en n'oubliant jamais ses racines issues du gospel et du blues, constante source de création pour le chanteur. L'autre point positif est son approche. Cela peut étonner à premier abord, mais le film est narré à travers les yeux du colonel Parker, manager mystérieux et vampire inquiétant, derrière une créature de Frankenstein musical qui a du mal à se passer de lui pour gérer sa vie. L'évident clin d'œil à Amadeus de Miloš Forman s'impose, avec aussi une narration imposée par celui qui fut son plus grand ennemi, et ce pour atteindre le même but, à dépeindre la vie et l'œuvre d'un génie atypique qui, le temps d'une trop courte vie et carrière, aura révolutionné durablement son art. Il est interprété par Tom Hanks, quasiment méconnaissable sous un maquillage prosthétique impressionnant qui achève de le faire passer pour un ogre de conte qui se repaît du talent et des revenus de sa victime. Preuve finale de la réussite d'Elvis, lors d'un final forcément émouvant, les images d'archives se mêlent à la performance d'Austin Butler sans que l'on se rende vraiment compte que l'on est passé de la reconstitution au document réel. Alors que vous soyez ou non un amateur du King, Elvis est un film qui risque de vous plaire et dont le sujet est bien plus transgénérationnel que prévu.
Bientôt j'aurai 40 ans et personne ne se souviendra de moi. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment. Et qui es-tu, Elvis ? Je dois tirer le meilleur parti de tout ça tant que je peux. Ça pourrait finir en un clin d'œil.
Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité.
On fait une pause concernant les chroniques de films dans cette émission avec le moment où on rend hommage à l'acteur Jean-Louis Trintignant.
This is Cinérama.
Et ça c'est clair.
Jean-Louis Trintignant est mort le 17 juin. Au moins 140 films à son compteur en plus de 60 ans de carrière. Nous allons jouer donc un blind test. Il va falloir découvrir 5 titres de son immense filmographie. Je pense, Manu, que tu vas tout trouver. Et vous, chers auditeurs, soyez attentifs à ces extraits. Premier extrait.
C'est quand même curieux. Tous les gens voudraient être différents des autres. Et toi, au contraire, tu veux ressembler à tout le monde.
Il y a une dizaine d'années, mon père était à Munich. Il m'a raconté que souvent, le soir, après le théâtre, il allait avec des amis dans une brasserie. Et là, il y avait un type complètement fou qui parlait toujours de politique. C'était devenu une attraction. On lui payait à boire, on l'excitait. Alors, il montait sur une table et il faisait des discours absolument fous. C'était Hitler.
C'est trouvé.
Et c'est Le Conformiste de Bernardo Bertolucci, film de 70.
Reste sur ta première impression. Tiré du roman Le Conformiste d'Alberto Moravia, le film est une analyse d'une adhésion au fascisme motivée par des ressorts intimes et psychologiques. Un viol et un meurtre subis et commis par un enfant. 570 000 entrées en France au moment de sa sortie. Un deuxième extrait de ce blind test consacré à Jean-Louis Trintignant.
S'il est d'elle. Prochaine séance à 20h30.
Bonjour madame. Je voulais pas l'horaire des séances, je voulais parler à la gérante de l'Éden.
Mais il n'y a pas de gérante.
Vous avez reconnu sa voix ?
M'a semblé, mais je suis pas certaine.
Ah, mais si, c'est elle. C'est cette folle qui fait des appels anonymes.
Ah, il faudrait qu'elle parle plus pour que je la reconnaisse. Je vais la rappeler. Je vais essayer de la faire parler plus longtemps. Allô? Ah, non, pardon, madame. Je veux juste savoir, vous donner les sentiers de la gloire. C'est une histoire d'amour?
C'est un film de guerre. Ça se passe en 14-18. C'est les Français qui se battent contre les Allemands.
Ah, alors il y a des canons, des soldats, il n'y a pas de femmes?
Si. Vous savez ce que c'est? Les soldats ont toujours des photos de femmes dans leur portefeuille.
Ah, alors il y a de l'amour?
Ben, y a de l'amour, il y a de la bagarre, et puis des chansons, des sentiments, et tutti quanti.
Ça a été trouvé.
C'est Vivement Dimanche de François Truffaut, film de 1983.
Oui, avec Fanny Ardant, qu'on entend aussi dans cet extrait. Dernier film réalisé par François Truffaut, réalisé en noir et blanc. Il reprend les codes du film noir des années 50, hein, dans les dialogues, le scénario ou le traitement de la lumière. Une femme et son amant sont assassinés. Le mari, Julien Vercel, suspect numéro 1, décide de s'enfuir et de se cacher quelque temps. Et sa secrétaire, eh bien Barbara Baker, éprise de son patron, mène sa propre enquête. 1 176 000 spectateurs en France pour ce film Vivement Dimanche. Alors là, on entend un léger accent du sud de Jean-Louis Trintignant. Il faut savoir que Jean-Louis Trintignant est décédé dans le Gard, hein, où il vivait.
C'était Uzès, d'ailleurs.
Oui. Troisième extrait de ce blind test.
Tu viens souvent ici?
Moi, s'y dire jamais, toi.
C'est la première fois que j'y mets les pieds. Et c'est ici, précisément, que nous nous sommes rencontrés. C'est étrange.
Non, au contraire, c'est tout à fait normal. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situent nos points d'intersection. Forcément. Actuellement, j'ai fait des mathématiques à temps perdu. Ça m'amuserait de définir les chances que nous avions de nous rencontrer, disons, en moins de 2 mois.
Tu crois que c'est possible?
C'est une question d'information et de traitement de l'information. Encore faut-il que l'information existe. La probabilité que j'ai de rencontrer une personne dont je ne connais ni le domicile, ni le lieu de travail est évidemment impossible à déterminer.
Film d'auteur, ça.
Oui, film d'auteur.
Film d'auteur,
ça,
enfin, c'est très...
très bavard, avec quelqu'un qui a l'habitude de...
C'est Manu Chaimot de...
Oui.
D'Éric Rohmer.
Je cherchais à te donner des indices, mais ça n'a pas été nécessaire. Sorti en 69 pour ce film, avec Jean-Louis Trintignant et puis Françoise Fabian, un ingénieur goûtant le calme d'une ville de province, je crois que c'est Clermont-Ferrand, éprouve une très grande attirance pour une jeune femme indépendante. C'est la troisième histoire dans la série des 6 contes moraux de Éric Rohmer. 1 million d'entrées en France. Un nouvel extrait de ce blind test consacré à Jean-Louis Trintignant.
Tu vas porter plainte? Protester,
porter plainte, signer des pétitions, tout ça c'est de l'humanisme à la con. La police, c'est la police, elle cogne, c'est son métier. On la supprime, on encaisse, en attendant, on se met pas à pleurer.
Tu sais que tu m'amuses.
Je croyais que tu voulais travailler.
Il y a 4 heures d'enregistrement. J'ai interviewé tous les Noirs africains, tous les Portugais qui venaient au dispensaire.
Tout ça me fait chier. La misère me fait chier, les bons sentiments me font chier. C'est vrai, ces Portugais sont abrutis par leur
ça
travail,
suffit,
par la
François,
peur.
C'est vraiment un peu facile, ton numéro.
Toi aussi, tu m'emmerdes. Tu vas au peuple comme la vache va au taureau.
Trouvé.
Et c'est l'attentat d'Yves Boissé.
Film de 1972 avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Jens Seberg. Et puis aussi un autre acteur, celui des Dents de la Mer. Donc.
Roy Scheider qui joue dedans, mais il y a une distribution absolument incroyable. Je crois qu'il y a Jeanne Marianne Volonté aussi, plein d'acteurs français très connus.
Le film est inspiré par l'assassinat en octobre 65 de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka sur le territoire français. Et là, on suit l'histoire de Sadiel, qui est un leader progressiste du tiers-monde, qui a la popularité croissante. Mais ce dernier est contraint de trouver refuge en Suisse, quand plusieurs pays qui voient cette notoriété d'un mauvais œil eh bien, envoient des agents secrets pour l'éliminer. 1,4 million d'entrées en France pour l'attentat. Dernier extrait de ce blind test.
Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste.
Moi, et vous, et Yago aussi, parce que vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé sûrement, qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais.
Mais je déteste les communistes, je prends les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis.
Et Yago?
Yago aussi.
Comment s'appelle-t-elle?
Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah.
C'est trouvé.
Et c'est Z de Costa Gavras.
Oui, film encore, un film sorti en 69. Là, on retrouve Jean-Louis Trintignant et Yves Montand. Un député progressiste est assassiné dans un pays méditerranéen, c'est Yves Montand. Et le juge d'instruction s'occupant de l'enquête, c'est Jean-Louis Trintignant, met en évidence dans ce crime la participation de l'armée et de la police. 3,9 millions d'entrées en France hein, pour ce film de Costa Gavras. Et c'est le prix d'interprétation masculine à Cannes cette année-là, donc c'est pour ça que je voulais aussi terminer par ce film qui est aussi remarquable. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la vaste filmographie de Jean-Louis Trintignant. Une expérience menée sur des prisonniers dans un futur proche, c'est Spiderhead, et c'est un film sur Netflix.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Ta présence dans ce pénitencier, en dehors d'être une punition, c'est surtout un privilège. Ici, on va changer le futur. Avant de débuter, j'ai besoin de ton autorisation pour t'administrer du N40.
J'ai du mal à me souvenir de qui j'étais avant d'arriver là.
Perfusion ?
Je consens.
Perfusion ?
Je consens.
Je consens.
Perso, je consens.
Si Top Gun Maverick, mené par Tom Cruise et réalisé par Joseph Kosinski, bat des records, hein, ça sera plus difficile pour un autre film du réalisateur qui a déboulé sur Netflix ce 17 juin, Spiderhead. Alors, fini les grosses virées en Alpha Jet et bonjour au film de SF en huis clos dans une prison d'un nouveau genre, une prison de luxe dans laquelle vivent les cobayes d'une expérience menée par un savant qui joue avec les psychotropes, Chris Hemsworth. L'acteur australien quitte la tenue de Thor pour administrer des doses de produits à qui y consent. Alors il faut dire que les prisonniers qui sont ici sont à l'aise. Hein. La prison qui les accueille comporte des cellules ouvertes. Les gardiens n'ont rien de dissuasif. Et ces détenus ont eu le choix entre purger une lourde peine ou participer à une expérience comportementale menée par le directeur de la structure. Alors chaque fois qu'on leur injecte une dose de produit, ils en sont avertis et doivent y consentir. On en appelle donc au libre arbitre des cobayes. Une manière de mieux exprimer qu'ils vont devoir en faire le deuil. Les produits alors sont efficaces, administrés depuis le dos où se trouve un petit boîtier. Ils sont capables, selon les besoins, eh bien, de susciter la faim, le désir, la parole ou bien de vous donner des angoisses.
Les bornes qu'il fallait surtout pas dépasser, c'était... Il y a de nombreuses bornes. Elles sauveront des vies. Pas une ni deux, mais de très nombreuses. Nous allons créer un monde meilleur.
Mais le film s'ouvre par le rire, et c'est d'abord ce produit que l'on voit tester, d'une manière redoutable puisque le détenu rit à l'évocation du génocide rwandais. Alors on va très vite quitter le rire pour le drame. On ne tardera pas à comprendre hein, que ce que cherche le savant fou, c'est ni plus ni moins que d'abolir la liberté, non pas à guérir l'homme de ses traumatismes, car les personnages qui défilent sont avant tout en quête de rédemption. Le scénario ne va pas très loin et est livré avec une série de dialogues parfois pompeux, hein, comme ce fameux « mais finalement, si tout le monde est méchant, pourquoi punit-on les méchants ?» Le questionnement d'une humanité qui va chercher avec le développement technologique à se transformer, eh bien, tourne court. On est alors dans un scénario hollywoodien hein, dont le décor de la prison, grand bâtiment architectural dominant la mer, fait penser à un James Bond et avec lui à cette lignée de films hein, qui nous apporte des méchants sans aucune mesure ou sans passé ni consistance. Alors on sait que le personnage de Chris Hemsworth a été abandonné par son père et c'est déjà trop. Hein. Alors pour donner le change à l'acteur australien qui ne joue pas les gros bras, il y a Miles Teller qui est eh bien, le point de vue moral hein, sur cette histoire, un détenu hanté par son passé qui a perdu son amour et qui ne va pas tarder à le retrouver en s'éloignant de la tentation du progrès. Pour sauver ce scénario bien trop léger, il y a tout de même la mise en scène de Joseph Kosinski qui, même si elle apparaît trop voyante, se construit autour de décors d'ambiance et de séquences filmées au millimètre, de sorte qu'on saisit bien mieux eh bien, les enjeux d'un tel film, au travers notamment de l'immensité des espaces, même si on est dans un milieu clos, des vitres qui cloisonnent les pensionnaires et puis eh bien, des émotions qui les affectent.
Ce que tu désires, c'est la rédemption. Et c'est ici que tu vas la trouver.
On vivrait en paix et en harmonie.
Ah ! On peut donc se laisser tenter par ce Spider-Head de Joseph Kosinski qui est disponible sur Netflix. Unique film du réalisateur John Parker, Dementia, raconte le cauchemar éveillé d'une femme gagnée par la folie. C'est toi qui nous en parles, Manu. C'est une sortie DVD.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Unique réalisation d'un obscur inconnu, Dementia est un projet atypique. Objet de culte par une poignée de cinéphiles, le film qui s'apparente presque à un moyen-métrage, étant donné sa très courte durée, hein, une cinquantaine de minutes, ressort aujourd'hui dans une copie restaurée magnifique chez Potemkin après avoir été découvert dans une édition médiocre éditée par Backfilm il y a quelques années. Avec son patronyme de musicien de free jazz, le réalisateur John Parker est une énigme. Existe-t-il ou non ? Serait-ce un pseudo d'un célèbre cinéaste ou un fantôme perdu dans les limbes des studios en marge d'Hollywood ? Après vérification, Parker n'a rien d'une invention. Il s'agit bien de l'homme d'une seule œuvre qui a réellement disparu de la circulation après un éclair de génie. Alors une autre interprétation circule, relayée par l'acteur principal Bruno Vezzotta, qui prétendait être en partie l'auteur du film. Il aurait déclaré que le débutant Parker ne pouvait mener à bien ce projet démentiel. Touche à tout pour Roger Corman, hein, Bruno Vezzotta, qui s'est fait d'ailleurs la tête d'Orson Welles pour l'occasion, est aussi l'auteur d'un curieux polar, Female Jungle, et d'une petite bande horrifique, The Brain Eaters. Créant un trouble supplémentaire, l'année de la réalisation de cette œuvre bizarre est incertaine, située entre 53 et 55. Totalement inédit en France et sorti dans une seule salle à New York en 1958, Dementia ne s'est jamais remis de son échec cinglant, péloche quasi introuvable malgré quelques tentatives de le ressortir, alors sous différents titres, et charcuté par de nouveaux montages altérant considérablement la beauté de l'œuvre originale, véritable immersion dans l'inconscient. D'ailleurs, la fameuse phrase de Edgar Allan Poe comme quoi « la vie serait un rêve dans un rêve » pourrait s'appliquer à merveille à ce diamant noir. Le film s'ouvre sur un décor urbain en carton-pâte censé représenter un quartier new-yorkais. Cette exhibition d'un univers factice et clos l'éloigne de toute forme de réalisme, puisant sa force dans une facture visuelle impressionnante. Par un lent travelling sophistiqué, ou alors un zoom peut-être donnant l'illusion du mouvement, comme dans le prologue de Psychose, la caméra s'immisce à travers la chambre d'hôtel malfamée. Une jeune femme est en train de dormir, mais son sommeil est très agité. Brusquement, elle se réveille d'un cauchemar dans lequel elle est littéralement engloutie par une vague. Elle se lève, ouvre une commode et s'empare d'un couteau. Dans une sorte de transe instinctive, proche du somnambulisme, elle sort de sa chambre, se retrouve dans la rue et s'enfonce dans la jungle urbaine peuplée de silhouettes inquiétantes vers une quête étrange et désespérée. Pour donner corps à ce délire hypnotique, John Parker multiplie les choix artistiques aussi singuliers que cohérents. Succession de plongées et de contre-plongées, décadrage constant déformant l'espace visuel, montage agressif approche des clips contemporains, noir et blanc expressionniste au contraste marqué et décor anxiogène, symbole de l'enfer sur Terre. Cette expérience cinétique s'avère épuisante, en sur-régime, déflagration ininterrompue d'idées de mise en scène, toutes plus ingénieuses les unes que les autres. D'autant que le film est entièrement sans dialogue, porté à bras-le-corps par la partition habitée de George Antheil, compositeur culte à qui l'on doit la musique du ballet mécanique de Fernand Léger. Dementia est un pur trip fantasmagorique à la croisée du film noir et du cinéma expérimental. On pense tour à tour à La Dame de Shanghai, à Un chien andalou et au cabinet du docteur Caligari parmi les multiples références. John Parker associe brillamment violence et sexualité dans son délire pelliculé qui fera à coup sûr quelques émules par la suite de David Lynch à David Cronenberg en passant par Brian De Palma. Bien que rien n'a dit que les cinéastes cités aient pu voir le film. Ce cauchemar transgressif prend toute sa démesure lors de la séquence du cimetière, tentative freudienne d'explication rationnel d'un récit qui l'est beaucoup moins. Ce récit rejoue la scène originelle, le trauma initial surgit du fin fond de l'enfance avec protagoniste et antagoniste qui se déchirent, soit un père incestueux, violent et alcoolique, une épouse infidèle et une très jeune fille qui est bien sûr l'héroïne. La scénographie est aussi simple que puissante, le décor de la maison s'intègre à celui du cimetière par des effets de surimpression. Ce dispositif qui jouxte deux espaces-temps différents produit du pur cinéma, d'une puissance graphique incroyable. Alors véritable film cerveau qui explore le psychisme de la cas pathologique, Dementia se vit comme une expérience unique jusqu'à son final paroxystique où les images se télescopent avec une frénésie inouïe pour un film quand même datant de 53. Voilà, le film sort chez le très sérieux éditeur Potemkin, qui a édité jusque-là, bah alors pour n'en citer que quelques-uns, c'est l'intégrale de Tarkovsky, l'intégrale Romer et l'intégrale Dreyer. Ce n'est quand même pas rien.
C'était la sortie DVD du mois de juin. On terminait avec ça.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, tu vas comparer deux films.
Deux films d'action. L'un sort sur Netflix, l'autre sur Prime. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux films qui se ressemblent, c'est Interceptor et Le Courrier.
Et nous parlerons aussi de Backphone et de Irréductible. À la semaine prochaine.